Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, le Gabon a aujourd'hui 44 ans. Je vous souhaite donc à tous de très joyeuses fêtes pour le 44e anniversaire de l'indépendance de notre cher pays. Le Gabon, notre pays, mérite notre amour. Aimer le Gabon, c'est s'investir totalement dans son renouveau, dans son développement et dans son bien-être. Aimer le Gabon, c'est non seulement se préoccuper du sort de sa mère, de son père, de son frère, mais également du sort de tous ses compatriotes, quelle que soit leur origine ethnique. L'occasion du 17 août devrait ainsi être pour toute la nation une occasion de réjouissance où les Gabonais, unis dans le patriotisme et la prospérité partagée, se donneraient la main pour fêter ensemble leur destinée commune. Il se trouve malheureusement qu'une caste de malfrats, dirigée par Omar Bongo depuis bientôt 38 ans, a décidé de prendre en otage notre pays. Et à cause de cela, notre pays souffre de pauvreté, de dictature et de tares diverses. Il est devenu coutume pour Omar Bongo, à chaque 17 août, de vendre aux Gabonais les bienfaits de la paix. De promesse en promesse, répétée chaque année et jamais réalisée, nous en sommes aujourd'hui réduits à devoir nous contenter de la paix bongoïste que demande Omar Bongo aux Gabonais. La paix, pour ce monsieur, semble être un mot, un simple mot vide, que l'on peut balancer comme cela à tout bout de champ. Les questions que le BDP voudrait voir posées à Omar Bongo sont les suivantes. Les milliers d'enfants gabonais qui meurent de malnutrition dans notre pays chaque année mangent-ils la paix? Les Gabonais qui meurent de sida dans un pays sans politique de la santé comme le nôtre se soignent-ils avec la paix? Les Gabonais qui meurent de paludisme et d'autres maladies banales, dans un pays sans hôpitaux décents comme le nôtre, se soignent-ils avec la paix? Les 60% de Gabonais qui, près de 38 ans après l'arrivée au pouvoir d'Omar Bongo, vivent encore sous le seuil de pauvreté, mangent-ils la paix? Que vaut finalement la paix de Bongo quand on a le ventre vide, quand on est sans travail, sans hôpitaux, sans médicaments, sans route, sans école et sans avenir? Justement parce que c'est Bongo et ses complices qui ont volé tout l'argent qui aurait pu servir à améliorer la vie des Gabonais. Non, mes compatriotes, la paix sans développement n'a pas de sens. Cela fait 37 ans qu'Omar Bongo nous chante la paix. Et à chaque campagne électorale, à chaque 17 août, à chaque discours, il vous demande la paix. Est-ce qu'on mange la paix? Quand on a la paix dans un pays, est-ce qu'on la demande à tout bout de champ? La raison pour laquelle Omar Bongo, année après année, 17 août après 17 août, discours après discours, vous demande la paix, c'est justement parce qu'il sait qu'il n'y a pas de vraie paix au Gabon. Au Gabon, il y a la paix de la dictature, la paix imposée par la censure journalistique et politique, la paix imposée par l'armée et l'État policier, la paix achetée par la corruption et les cuisses de dindons. Cette paix-là, mes chers compatriotes, n'est pas une vraie paix. Dans un pays comme le nôtre, seul le développement et le progrès économique dans un cadre démocratique concerté, apporteront la paix, celle qui repose sur l'état de droit, et non l'état de terreur. Il est à ce niveau surprenant qu'Omar Bongo, près de 38 ans plus tard, n'ait rien de mieux à proposer aux Gabonais que la paix. Ce que Bongo ne vous dit pas, c'est que, à cause de sa dictature, de la fraude électorale, du favoritisme, du refus systématique de développer le Gabon et du détournement de deniers publics dont son régime s'est fait le spécialiste, Omar Bongo est la personne qui tue la paix et qui causera la guerre civile au Gabon. Omar Bongo, pour faire peur aux Gabonais, aime faire référence au pays dans la souffrance et la guerre civile comme la Côte d'Ivoire. Mais ce qu'il ne vous dit pas, c'est comment la Côte d'Ivoire en est arrivée à cet état de guerre civile et de souffrance. La Côte d'Ivoire en est arrivée à la guerre civile parce qu'elle a eu un président, que vous connaissez d'ailleurs, Oufoué Boigny, qui, comme Omar Bongo, refusait la démocratie et a préféré mourir au pouvoir. Quand un président dictateur s'accroche au pouvoir toute sa vie et y meurt sans préparer démocratiquement la relève, c'est le chaos et la guerre civile assurée. Omar Bongo, qui va se représenter aux élections présidentielles de 2005, aura ainsi fait 38 ans au pouvoir. Et comme il a changé la constitution pour pouvoir se représenter ad vitam aeternam, c'est que Bongo, comme Oufoué Boigny, veut mourir au pouvoir. Et que va-t-il laisser derrière lui quand il mourra? La misère, la division et les querelles politiques. Comme la Côte d'Ivoire, le Gabon sera en effet un pays dans la guerre civile et le désordre. La solution pour gagner la paix au Gabon n'est donc pas de laisser Bongo mourir au pouvoir. La solution, c'est le départ immédiat de Bongo, car 38 ans, c'est déjà trop. Si Bongo veut rendre un service à la nation et sauvegarder la paix au Gabon, c'est maintenant qu'il doit partir. Pas hier, pas demain, mais bel et bien aujourd'hui. La raison pour laquelle Bongo doit partir est simple. S'il n'a pas pu développer le Gabon en 38 ans de pouvoir sans partage, ce n'est pas dans les 7 ou 10 ans qu'il lui reste à vivre qu'il va pouvoir le développer. Bongo n'a plus d'idées et son discours du 17 août le prouve. Ce discours montre deux faiblesses principales dans le terrible et désastreux plan de développement qu'a présenté Omar Bongo à la nation gabonaise. La première faiblesse, c'est quand Bongo dit que le développement du Gabon est maintenant lié aux fêtes tournantes du 17 août. Mais quelle honte pour le Gabon, mon Dieu, quelle honte! Bongo sait-il au moins ce qu'il dit et ce qu'il fait? Si maintenant les provinces du Gabon doivent attendre le 17 août pour recevoir de l'argent et ainsi espérer se développer, cela ne veut-il pas dire que chaque province devra attendre 9 ans avant que Bongo ne repense à cette province? Mon Dieu, quelle honte pour le Gabon, surtout quand on sait que l'argent que Bongo donne aux provinces lors du 17 août vient surtout de donations faites au Gabon par des pays amis comme la Chine, la France, le Canada, les États-Unis, parmi d'autres. Cet argent, en plus, finit toujours par être détourné par les requins du régime, y compris Omar Bongo lui-même. À la fin, les populations des provinces finissent par se retrouver avec les mains pleines de promesses et des chantiers inachevés. Même pour construire dans son propre pays les immeubles qui doivent abriter les symboles de la souveraineté nationale, comme l'Assemblée nationale, le Sénat et la radio-télévision, Omar Bongo doit aller mendier l'argent dans d'autres pays. À quoi donc sert l'argent du Gabon que Bongo pompe chaque année des caisses de l'État? La deuxième faiblesse de son plan, c'est que Bongo prie aussi les Gabonais d'être patients et de lui donner la paix pendant 14 mois, c'est-à-dire exactement 1 an et 2 mois. Pourquoi une telle requête? Parce qu'il attend que le FMI puisse lui donner de l'argent. Mais bon Dieu, quelle honte pour le Gabon! Comment expliquer que dans un pays riche comme le Gabon, celui qui se dit président soit obligé de se prostituer, de se transformer en président mendiant, attendant la faveur soit du FMI, soit de la France, soit de la Chine, soit des États-Unis, soit du Canada et de beaucoup d'autres pays et organismes pour espérer développer son pays, pour espérer construire un immeuble ou même pour espérer acheter des médicaments. Où passent donc tous les milliers de milliards que le régime encaisse chaque année du pétrole, du bois et autres richesses du Gabon? Cette année, par exemple, le baril de pétrole a atteint $50 sur le marché international. Cela veut dire que le Gabon est en train d'encaisser près du double des revenus qu'il a encaissés du pétrole il y a 10 ans, en 1989 ou même 1998. Où va cet argent? Et pourquoi Bongo a-t-il besoin de continuer à endetter sans raison le Gabon, alors que le Gabon peut se passer de s'endetter? Mes chers compatriotes, le Gabon n'a besoin ni de l'argent de la Chine, ni de l'argent du FMI pour se développer. Une gestion rigoureuse du Gabon dans le contexte d'un État réformé peut faire que, en 5 ans seulement de politique de développement, on dégage assez d'argent pour que chaque Gabonais ait un travail dans lequel il gagnerait bien sa vie, pour que les salaires actuels des Gabonais les plus démunis soit doublé, pour qu'il y ait un système de sécurité sociale efficace au Gabon qui prendrait en charge tout le monde, pour qu'il y ait des médicaments, des hôpitaux et des médecins dignes de ce nom pour soigner gratuitement les Gabonais partout dans le pays, pour qu'il y ait des routes bitumées partout au Gabon, y compris le désenclavement de Port-Gentil par l'autoroute, pour qu'il y ait des écoles gratuites et compétentes partout au Gabon, avec au bout des formations menant à l'emploi dans un cadre de gestion rationnelle et d'adéquation formation-emploi, pour que les bourses des étudiants soient doublées et le retour au pays de ceux partis étudier à l'étranger soit toujours accompagné de structures et de mesures d'accueil menant rapidement à un emploi, pour que les bidonvilles et Matiti du Gabon soient totalement rasés et réhabilités et transformés en zones urbaines habitables avec lignes privées d'électricité, de téléphone, d'eau, de télévision et Internet par câble pour projeter le pays dans l'ère de l'hyper-information, pour que l'on mette en place une politique de fortification du secteur privé par l'encouragement et le financement de la libre entreprise d'une manière qui puisse mener au renforcement du marché national et bien d'autres choses encore qui peuvent être financées par l'argent gabonais sans avoir besoin d'emprunter quoi que ce soit. Chers compatriotes, au Gabon, il y a assez d'argent pour développer valablement le pays sans que l'on ait besoin de devenir mendiant auprès du FMI, de la Chine ou d'autres pays ou organismes donateurs. Cet argent qui peut servir à développer le Gabon, il est là, mais il est coincé dans les comptes privés d'Omar Bongo, de sa famille et de ceux qui sont complices avec lui pour tuer et dépecer le Gabon. Pour que le Gabon se développe et retrouve la paix, il ne suffit pas de chanter le mot « paix » n'importe comment sur tous les toits, avec à l'appui des cuisses de dindon. Ce qu'il faut, c'est une réforme démocratique pouvant mener à l'établissement d'un état de droit et de démocratie dans notre pays. Ce n'est qu'à ce moment que le Gabon pourra se développer valablement et vivre dans la paix. Mes chers compatriotes, au cours d'une interview sur RFI le 29 octobre 2003, Omar Bongo a fait référence au BDP comme un mouvement mesquin et sans élégance. À cette occasion, à la question de savoir ce qu'il pensait du BDP, Omar Bongo lança un défi à notre mouvement en disant, et je le cite, « Venez au Gabon, constituez-vous en un parti politique qui s'appellerait Bongo doit partir et ce parti présentera son candidat contre Bongo et on verra qui battra l'autre. » Mes chers compatriotes, nous sommes prêts à relever le défi d'Omar Bongo. La question que nous, au BDP, posons cependant à Omar Bongo est la suivante. Est-il capable de gagner une élection démocratiquement organisée contre le BDP? Une chose est de faire de grandes déclarations et de dire de grandes paroles quand on se réfugie et quand on se cache derrière l'armée, la fraude et la corruption électorale pour voler des élections. Une autre est de se comporter en homme avec des couilles, capable de gagner proprement une élection avec ses propres capacités et non celles de l'État ou de l'armée. À Omar Bongo donc, mais aussi à la nation gabonaise, nous voulons montrer que, contrairement à ce que Bongo avait dit sur RFI, nous savons également être élégants. Nous répondons donc au défi d'Omar Bongo par un contre-défi. Nous disons à Omar Bongo qu'il n'est pas un homme et qu'il n'a pas de couilles. Un homme, ce n'est pas que la bouche qui fait de grosses déclarations dans le vide. Un homme, c'est celui qui sait faire face à son adversaire par le fair play et qui sait reconnaître son échec ou son incapacité quand il a été battu. Omar Bongo n'a pas de couilles, vu qu'il n'a jamais eu ni le sens du fair play, ni la capacité de reconnaître son incapacité comme un homme digne le ferait. Nous disons donc à Omar Bongo que le BDP acceptera son défi le jour où il se comportera en homme. Pour nous montrer qu'il est un homme avec des couilles, nous disons à Bongo que nous sommes prêts à laisser de côté notre virulence, nos multiples revendications, nos injures, notre impolitesse. Mais il faut le mériter. Pour voir un tel changement s'opérer au sein du BDP, Bongo doit accepter aujourd'hui et maintenant deux petites conditions. La première condition est que Omar Bongo doit accepter de ne plus mettre des bâtons dans les roues du BDP. Ceci veut dire qu'il doit accepter le principe d'une légalisation immédiate du BDP sans condition. Et cela voudra dire en même temps qu'il devra accepter que le BDP puisse tranquillement venir au Gabon livrer son message d'espoir aux Gabonais. La deuxième condition, c'est que Bongo doit accepter que les élections présidentielles de décembre 2005 soient entièrement organisées par l'ONU. Ces deux petites conditions montreraient en effet aux Gabonais que Bongo est un homme qui ne craint ni le discours du BDP, ni le fait que les élections soient entièrement organisées par l'ONU. Ce sont donc là deux petites conditions, deux conditions très simples qu'un homme avec des couilles et qui se croit capable peut facilement accepter. Si Bongo veut relever ce défi, je suis prêt à faire le déplacement sur le Gabon immédiatement, à la tête d'une équipe du BDP, rencontrer Bongo et mettre en place une commission mixte qui va se charger de préparer un mémorandum d'accord sur l'organisation des élections par l'ONU en 2005. Ce mémorandum sera par la suite envoyé à l'ONU après avoir été validé par tous les partis politiques gabonais. Une élection entièrement organisée par l'ONU veut dire que l'ONU devra tout reprendre à zéro. En d'autres termes, l'ONU devra dissoudre toutes les listes électorales existantes et refaire totalement de nouveaux fichiers électoraux basés sur ses propres méthodes de travail. L'ONU devra annuler les cartes électorales établies par l'État Bongo et délivrer ses propres cartes qui devront être infalsifiables et disposer de dispositifs de vérification électronique. Faire son propre recensement général de la population pour mieux juger du vrai nombre de Gabonais dans le pays. Mettre en place au cours de l'année 2005 des observateurs dans toutes les régions du Gabon pour surveiller les mouvements des populations et éviter que des gens ne viennent de pays voisins pour voter au Gabon. Les frontières avec nos voisins du Congo, de Guinée équatoriale et du Cameroun devront être particulièrement surveillées. L'ONU devra mettre en place ses propres observateurs électoraux qui devront tous venir de pays neutres. L'ONU devra mettre en place ses propres commissions et bureaux électoraux dans lesquels chaque parti gabonais pourra avoir son représentant. L'ONU devra réorganiser les circonscriptions électorales d'une manière qui soit plus logique et plus équitable. L'ONU devra s'assurer que l'État gabonais ne gardera le contrôle d'aucune structure électorale. Le seul rôle que jouera l'État gabonais consistera à mettre à la disposition de l'ONU la logistique financière et matériel nécessaire. L'ONU, enfin, devra s'assurer que il est et restera le seul organisme à pouvoir valider puis proclamer le résultat des élections sans influence directe ou indirecte de l'État gabonais. Si donc Bongo veut montrer aux Gabonais qu'il est non seulement un homme de paix, mais aussi qu'il peut gagner dans la transparence totale une élection au Gabon, qu'il accepte de relever ce contre-défi très simple à relever que vient de lui lancer le BDP par ma voix. S'il l'accepte, alors le BDP viendra au Gabon relever le défi d'Omar Bongo. Le BDP présentera alors un candidat aux élections présidentielles de 2005 et on verra si Bongo peut, comme il le prétend, gagner une élection contre un candidat du BDP. Si Bongo gagne une élection entièrement organisée par l'ONU, alors j'irai moi-même, avec une délégation du BDP, rencontrer Omar Bongo après l'élection pour le féliciter devant la nation gabonaise. Mais si Bongo perd, qu'il accepte de partir comme un homme, la tête haute et l'âme tranquille. Au cas où Bongo perdrait l'élection, nous pourrons, au besoin, voter avec les Gabonais des mesures d'amnistie générale et totale qui protégeront les membres du régime pour qu'ils ne soient jamais poursuivis ni inquiétés pour les crimes commis lors de leur exercice. La seule condition de l'amnistie sera pour eux de faire état publiquement de leur fortune et d'accepter de rapatrier au Gabon leur fortune pour les réinvestir légalement et sans inquiétude dans le pays en tant que businessmen de droit. Voilà, chers compatriotes, le vrai enjeu auquel fait face notre pays. Notre pays souffre à cause de son déficit démocratique. Tant que les Gabonais n'auront librement choisi leur président dans le contexte d'un État réformé et démocratique, le Gabon ne connaîtra pas la paix. Une élection entièrement organisée par l'ONU est la seule chose qui aujourd'hui pourra produire au moins 3 résultats positifs. Le premier résultat positif est que une élection entièrement organisée par l'ONU apportera la vraie démocratie au Gabon, parce qu'elle sera entièrement crédible. Le deuxième résultat positif est qu'une élection entièrement organisée par l'ONU mettra tout le pays d'accord et ramènera l'unité nationale autour de la personne qui sera élue. Et cette personne jouira d'une légitimité totale qui sera garantie par la Constitution et reconnue par tous, y compris le BDP. Le troisième résultat positif est que une élection entièrement organisée par l'ONU est ce qui assurera en définitive le développement et la paix au Gabon, puisque le système politique pourra alors se concentrer sur les nécessités de développement du pays et oublier les querelles politiciennes, ethniques, qui ont divisé le Gabon pendant les 38 ans de pouvoir d'Omar Bongo. Si maintenant Bongo refuse cette offre simple et cette occasion de montrer aux Gabonais qu'il est un homme de paix, un homme avec des couilles et qu'il n'a peur ni du BDP, ni de la transparence électorale, c'est que Bongo est un homme qui ne veut pas le bien du Gabon et qui est prêt à laisser le Gabon mourir définitivement. Et dans ce cas, mes chers compatriotes, il ne laissera aux Gabonais d'autre choix que la violence pour le chasser du pouvoir. Aujourd'hui, c'est une question de choix entre l'ONU ou la violence. L'ONU est la solution la plus facile, la solution la plus crédible et la solution qui puisse faire que tous les Gabonais se rassemblent autour de la personne qui sera élue dans la légitimité pour que le pays vive dans la paix. Le BDP est donc prêt à relever le défi d'Omar Bongo. La grande question reste, Omar Bongo est-il prêt à relever le défi du BDP? Omar Bongo peut-il en réalité relever le simple défi que lui lance le BDP? Voilà, mes chers compatriotes, la vraie question que les Gabonais doivent se poser en ce 44e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Accepter ce défi de l'ONU, c'est permettre au Gabon de s'unir et de prospérer dans l'entente, la communion et le patriotisme. Refuser ce défi, c'est tuer le Gabon. Mes chers compatriotes, faisons le vrai choix. Faisons le choix de l'unité, du développement, de la démocratie et de la paix durable en exigeant d'Omar Bongo qu'il donne la totale responsabilité de l'organisation des élections présidentielles de décembre 2005 à l'ONU pour que vive le Gabon. Vive la nation gabonaise, vive la nouvelle République.